Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.
Aujourd'hui, notre invitée va être Marie-Édith Laval. C'est un écrivain voyageur, ou une écrivaine voyageur, comme vous voudrez, qui était de passage à Montpellier, donc hier, pour présenter une mise en image du livre qu'elle a été venue signer et au moment de la Comédie du Livre, il y a 2 ans, en 2014. Alors, ce livre s'intitule « Comme une feuille de thé à Shikoku ». En réalité, c'est donc une sorte de pèlerinage sur les chemins sacrés du Japon, sur une des îles, la plus petite île du Japon, de l'archipel du Japon. Et donc, elle va nous raconter comment, partant d'un goût certain pour le pèlerinage, elle s'est donc intéressée à celui du Japon, 88 temples à parcourir, 1200 kilomètres, et en quoi ce périple l'a profondément transformé. Alors, Marie-Édith Laval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes de passage à Montpellier ce lundi pour une projection qui a lieu à Castelnau, le Lez, à l'initiative de la librairie des 5 continents, et qui est en fait un peu liée au livre que vous aviez écrit il y a maintenant 2 ans.
Oui, il est sorti, mon livre donc, qui s'appelle « Comme une feuille de thé à Shikoku ». Il est paru initialement aux éditions Le Passeur en mai 2015.
Et voilà que, je suppose, le tirage ayant été épuisé, ce qui est une très bonne nouvelle, ou presque, il est réédité au livre de poche.
Exactement.
Alors ça, c'est une très bonne nouvelle, parce que, surtout pour vous, bien sûr.
Absolument.
Alors c'est l'occasion de revenir sur ce livre que j'avais eu l'occasion, vu ce livre à la sortie, puisque vous étiez venu pour la Comédie du Livre. Mmh. Mais bon, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler, alors... L'occasion en faisant le larron, eh bien, le larron étant moi, bien sûr, je profite pour vous interroger sur ce livre que j'ai trouvé bien intéressant. Alors, je crois que ce qu'il faut dire d'abord, c'est que c'est après un pèlerinage, on va rentrer dans le détail de cette histoire de pèlerinage qui m'intrigue, c'est après un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle où vous avez... semble-t-il rencontrer quelqu'un, un pèlerin de Shikoku, donc, que vous avez rencontré, et que tout à coup vous est venu l'idée de partir au Japon, faire celui qui fait l'objet de ce livre. Est-ce exact?
Oui, tout à fait. C'était l'été 2011 et l'été 2012, j'étais partie sur le chemin de Compostelle. Donc, j'étais partie de France, du Puy-en-Velay, et puis je suis arrivée donc, jusqu'à Compostelle, Cap Finistère, Mouchia après. Et donc, sur le Camino Frances en Espagne, j'ai rencontré un pèlerin japonais qui m'a parlé de ce pèlerinage à Shikoku. Donc, j'ignorais complètement l'existence à l'époque. Et ce qu'il m'en avait fait partager m'avait déjà fortement intéressée. Et moi, j'avais eu beaucoup de mal en rentrant de Compostelle à retrouver mon quotidien parisien, que je trouvais trop sédentaire, routinier à mon goût, et dans lequel j'arrivais plus à retrouver cet émerveillement qui m'avait porté sur le chemin de Compostelle durant ces journées de marche. Et j'arrivais pas à le retrouver dans mon quotidien. Et c'est un jour, le nom de Shikoku a refait surface. Et j'ai regardé un petit peu sur internet ce qu'on en disait, ce pèlerinage, et là ça a été comme cette petite évidence qui nous cueille. Il est des jours comme ça, des évidences nous cueillent, et là ça a été vraiment le cas ce jour-là. Je me suis dit, l'été prochain, je partirai à Shikoku faire ce chemin de pèlerinage. Et c'est comme ça que cette aventure a commencé.
Alors, donc on pourrait se dire, tiens, voilà, elle a été piquée par la mouche du pèlerinage, elle va donc partir pour un deuxième pèlerinage, puis peut-être une autre fois une troisième, etc. Mais quand on lit le livre, on s'aperçoit qu'il s'est passé quelque chose de plus. Alors on va un peu voir ça dans le détail, mais d'où vous est venue, au départ, l'idée même de partir? Vous dites que le quotidien vous paraissait peut-être un peu banal, de partir en pèlerinage. D'où est venu le déclic ?
À Shikoku ? Les deux. Ou initialement ?
Ce besoin de pèlerinage.
Alors, je me suis mise en marche sur le chemin de Compostelle. C'était à une époque un petit peu de transition de vie, voilà, de changement personnel. Et du coup, je ressentais vraiment le besoin de débrancher, la prise de tête et de rebrancher la prise de terre, de revenir vraiment, de lâcher le mental, de revenir les pieds sur terre. Et le pèlerinage de Compostelle, dont j'entendais parler depuis des années comme ça, mais sans que forcément ça m'attire à titre personnel, dans cette période de transition de vie, l'idée s'est imposée d'elle-même et en une semaine, j'avais fait mon sac pour partir sur ce chemin. La décision était posée et c'est dans cette période-là, effectivement, de transition de vie, que je me suis mise en marche pour mon premier pèlerinage. Et donc la mise en route vers Shikoku, c'était vraiment en lien avec cette lassitude par rapport à ce quotidien devenu un petit peu banal, et routinier, et je me disais voilà, la vie peut pas vouloir ça pour moi, peut pas vouloir cette espèce d'incomplétude. J'avais soif d'autre chose et puis portée de longue date aussi par une soif du voyage, soif de la découverte, soif de l'ailleurs, du lointain. Très souvent en projetant mon bonheur dans cet ailleurs le plus lointain possible, le plus différent possible de mon quotidien. Et donc c'est vrai que moi, de longue date, les retours de voyage avaient toujours un petit goût amer justement, et ce qui pour moi était difficile, c'était pas ce qui demandait du courage, et ce qui était difficile pour moi, c'était pas de me mettre en marche et de me mettre en route justement pour partir en voyage. C'était au contraire, pour moi le vrai courage, c'était de revenir dans mon quotidien et d'y rester. Et donc c'était cette espèce d'inaccompli, de soif qui me tiraillait, qui à chaque fois me redonnait là, cet élan de repartir et cet appel vraiment presque impérieux, cette espèce de nécessité vitale qui se faisait sentir de « il faut que je parte, j'ai à partir et à aller voir là-bas, peut-être si j'y suis, je ne sais pas, mais en tout cas cet appel au départ, cette soif de l'ailleurs vraiment qui me titillait de longue, longue date ».
Mais alors, quand même, quand on dit pèlerinage, ça évoque quand même un arrière-plan un peu religieux ou spirituel, au mieux. Et vous n'en parlez pas, vous parlez de votre vie, d'une espèce de choses inaccomplies, d'un besoin de sens peut-être, mais où est donc la religion, la spiritualité dans le déclenchement ?
Alors je pense que de ce manière on part pas sur un chemin effectivement de pèlerinage comme on partirait, je sais pas, faire le Gervais en Corse ou sur un chemin de grande randonnée. Je pense que même inconsciemment, effectivement, il y a certainement d'autres choses qui viennent se greffer sur cette envie de chemin de pèlerinage. Et probablement vraiment, enfin, à titre personnel, je le ressens comme ça, en quête de sens. Voilà, des chemins qui pour moi appellent cette quête de sens. Voilà, qu'est-ce qui peut faire sens dans ma vie ? Qu'est-ce qui m'appelle ce besoin de remettre du sens ? À la fois le sens, ça me fait penser sur les chemins de pèlerinage, il y a les balises, voilà, qui jalonnent le chemin. Et ces balises, pour moi, c'est à la fois qu'est-ce qui fait sens dans ma vie, mais à la fois dans la direction, qu'est-ce qui lui donne une direction et une signification. Vraiment dans cette double acception du mot sens. Et c'est vraiment ça, pour moi, qui me met aussi en marche sur un chemin de pèlerinage. Voilà, retrouver ce sens, qu'est-ce qui m'habite, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce qui me porte, qu'est-ce qui me met en marche, qu'est-ce qui me fait me mouvoir, mais au sens vraiment large. Et effectivement, je pense que les chemins de pèlerinage sont vraiment, nous invitent à grandir, à croître, peut-être à développer un nouvel art de vivre. Il y a tout ça que je mets sur les chemins de pèlerinage.
Alors, d'autant que, Saint-Jacques de Compostelle, je l'ai dit en n'étant pas très gentil, peut-être, c'est assez banal au fond. Aujourd'hui, qui n'a pas été, ou fait un bout, ou la totalité, mais enfin bon. Shikoku, c'est quand même autre chose. On change complètement de civilisation, on change de rapport au sacré, tout change. D'ailleurs, votre livre est une suite de relevés de ces changements importants ou infinitésimaux qui mettent véritablement votre moi en totale révolution.
Et oui, c'est vrai que d'emblée, on est de toute manière plongé dans un monde où on n'a plus aucun repère. Voilà, que ce soit au niveau de la langue, au niveau des codes culturels. Donc effectivement, on se retrouve d'emblée bousculé par une immersion dans un monde dans lequel d'emblée le mental est mis en déroute. Et du coup, j'ai beaucoup aimé le fait de retrouver ces sensations presque de la naïveté de l'enfant qui va découvrir voilà, un univers en passant par simplement ses sens, mais avec cette naïveté, cette fraîcheur et nos sens comme vraiment vecteurs et outils d'apprentissage et d'être au monde qu'on finit par oublier, je trouve, très souvent dans nos modes de vie où c'est le mental qui quand même gouverne un peu en mode tour de contrôle et j'ai trouvé ça extrêmement riche justement pour revenir à une perception et à une qualité d'émerveillement. Ouais, voilà, cette qualité d'émerveillement, peut-être qu'elle était justement facilitée par le fait que le mental soit mis en déroute et de toute manière lâche parce qu'il n'est plus sans avoir plus de repères et retrouver oui, cette fraîcheur d'accès au réel et d'accès à ce qui est là et du coup comme si tout prenait une autre densité, beaucoup plus d'ampleur que ce qui était l'habituel, le connu, le su, le familier, le tout ça.
Alors ce que je crois que si vous dire au lecteur qui va s'engager vers ce livre, c'est que il n'y a rien qui, j'allais dire, qui fasse pèlerinage au sens stéréotypé du terme. En fait, c'est un livre extrêmement sensuel où il y a énormément de notations. Que ce soit à travers la cuisine, à travers les odeurs, à travers les touchés. Enfin, on est vraiment dans un univers, j'allais dire presque religieux, parce que rien de métaphysique là-dedans. Au contraire, on est en prise directe avec alors, peut-être c'est lié à l'aspect japonais de la chose. Et donc, c'est un pèlerinage, mais c'est surtout un cheminement personnel. Alors, avant de rentrer dans le détail, d'abord, qu'est-ce que c'est ce Shikoku ? C'est 88 temples, je crois.
Oui, c'est ça. Alors, Shikoku,
1200 kilomètres.
Exactement. Shikoku, c'est en fait la plus petite des quatre îles principales de l'archipel japonais. Elle est située au sud de l'archipel, donc entre l'océan Pacifique et la mer intérieure de Seto. Et c'est une île considérée comme la plus traditionnelle et rurale au Japon. Mmh. Et elle est effectivement célèbre, entre autres, pour son pèlerinage des 88 temples. Que le pèlerin donc est invité à découvrir au fil de ses pas en suivant un itinéraire de 1200 km qui fait tout le tour de l'île, parce que ça c'est aussi une grande particularité de ce pèlerinage, c'est que c'est un pèlerinage circulaire, donc finalement 1200 km plus loin on revient à son point de départ, hein, donc
ça amène à beaucoup de modestie d'une certaine façon.
Exactement, parce que voilà, 1200 km pour revenir au point de départ, certes, et à la fois c'est extrêmement intéressant parce que c'est à la fois soi-même qui revient, en même temps un peu un autre, et en même temps comme si c'était le point de départ, justement, comme une rampe de lancement un petit peu qui nous lançait vers autre chose, qui nous sur cette ronde là. Moi j'ai vraiment l'impression d'avoir été un peu emportée dans une ronde un petit peu prise par un élan créateur. Et il faut savoir d'ailleurs au niveau de la symbolique, le cercle c'est vraiment la symbolique du divin, de la perfection, de l'absolu. Et puis c'est aussi cette symbolique de la renaissance, la clôture d'un cycle pour renaître. Et du coup je trouve que ça nous inscrit en tant que pèlerins sur ce cycle et qui est très, c'est cette idée très, très bouddhiste aussi d'éternel recommencement et d'éternel renaissance. Comme les cycles des saisons, les cycles dans lesquels on baigne. Et voilà, comme si on va justement de renaissance en renaissance. Et donc effectivement, on marche sur les traces d'un moine bouddhiste qui est né à Shikoku au 8e siècle, qui s'appelle Kukai, Kobo Daishi étant son nom posthume. Et en fait, Kukai, c'est un personnage extrêmement important au Japon, encore très vénéré aujourd'hui par le peuple japonais. Il était donc non seulement religieux, mais aussi philosophe, calligraphe. Il est à l'origine du syllabaire kana. Il était ingénieur. Il a réalisé aussi des miracles. Il a multiplié des grains de riz. Il a maîtrisé un dragon de feu qui terrorisait la population. Il a fait jaillir une source à un endroit où la population avait soif. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de choses. Et il est parti se former en Chine auprès d'un maître chinois. Et de Chine, il a rapporté le bouddhisme Shingon au Japon, qui est une branche toujours pratiquée à l'heure actuelle, la branche la plus importante du bouddhisme au Japon. Et donc, les 88 temples qui jalonnent ce parcours de 1200 km ont tous un lien avec ce fameux Kukai. Entre autres, je pense au temple 75, c'est le temple où il est né, à tel endroit, donc il a réalisé tel miracle, etc. Donc, on est vraiment sur ces traces, comme un peu sur le chemin de Compostelle, on est sur les traces de Saint-Jacques, on marche avec Saint-Jacques, là. On chemine vraiment avec Kukai, en tout cas sur son histoire, sur ses traces. Et dans la progression aussi de ce pèlerinage, quelque chose de très intéressant, c'est que c'est un pèlerinage... Déjà, il faut savoir que l'île de Shikoku en japonais veut dire « quatre provinces ». Et cette île est géographiquement divisée en quatre provinces. Et ces quatre provinces sont à la fois un découpage géographique préfectoral et auquel se superpose une dimension bouddhiste, en fait, puisque se superposent les différents niveaux de conscience auxquels accède le pèlerin au fur et à mesure de son évolution. Donc, puisque la première province traversée s'appelle l'éveil, ensuite le pèlerin traverse l'ascèse, puis l'illumination, et pour terminer, au nirvana, quand même, hein. Et vraiment, la topographie que l'on traverse est vraiment en lien avec ces différents états de conscience qui se dévoilent progressivement au pèlerin au fur et à mesure de son avancée. Ça, c'est...
Alors d'ailleurs, le livre est un récit assez proche de ce qui semble s'être passé, parce que je pense quand même qu'il y a des parties qui ont dû être reprises après, mais il est chronologique avec des dates précises, donc c'est une sorte de carnet de voyage d'une certaine façon. Mais en même temps, il est réparti, il recoupe un peu ces fameuses parties que vous évoquiez à l'instant, et on voit qu'il a un caractère initiatique, c'est évident, et que cet effet de renaissance aussi, dont on parlait tout à l'heure, est à l'œuvre, et qu'à la fin, au fond, mais on ne va pas tout dire, à la fin, on va vers cette issue lumineuse, on pourrait presque dire. Donc c'est aussi et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que il y en a un peu pour tout le monde, c'est-à-dire que ceux qui sont d'abord, c'est un livre extrêmement documenté, alors ça c'est absolument fabuleux, c'est-à-dire que on a l'impression que vous savez tout du Japon, en tout cas tout du bouddhisme, on comprend aisément, et puis en même temps vous faites un savant mélange avec des références littéraires. Alors, pour le coup, tout à fait occidental, avec beaucoup d'écrivains voyageurs, mais pas seulement. Et donc, on est balancé entre cette culture orientale et cette culture occidentale, avec vraiment un bonheur de lecture exceptionnel. Et donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ce n'est pas à proprement parler un livre dont ce qu'on pourrait attendre traditionnellement, un livre sur un pèlerinage, parce que ça, on aborde plein de choses et au fond, c'est votre expérience de cette marche dont vous parlez beaucoup aussi. D'ailleurs, la marche n'est pas très facile, on a très mal aux pieds quelquefois et on a aussi ce genre de détails.
Aussi, ben c'est vrai que de toute manière, la marche, déjà en premier lieu, elle reconnecte tout de suite avec le corps qu'on est, le corps qu'on a, le corps en marche, le corps en mouvement. Qu'on malmène beaucoup dans nos sociétés aussi sédentaires. Mmh. Et du coup, bah là, voilà, on se reconnecte. Donc le corps, il se rappelle à nous. Et puis, il nous rappelle bien ses besoins, effectivement. Le corps qui a mal, le corps qui a chaud, le corps qui a soif, le corps qui... Et c'est effectivement le premier support, de toute manière, à ce pèlerinage et à cette mise en route. Donc c'est vraiment se relier, se retrouver ce lien à notre incarnation. Avant tout, les marcheurs, je pense, voilà, le savent bien. Et en même temps, c'est effectivement se remettre à l'école de nos pieds qui ont beaucoup aussi à nous apprendre. Et donc, voilà, effectivement, il y a plusieurs dimensions qui viennent se superposer. Pour moi, c'est certain que ça a été vraiment une expérience fondatrice, une vraie lame de fond qui continue de me nourrir, d'alimenter aussi mon quotidien. Et j'ai d'ailleurs appelé, mon livre s'appelle « Comme une feuille de thé à Shikoku », parce qu'il y a vraiment donc ce petit clin d'œil à cet art ancestral japonais de l'art du thé, mais au-delà de ça, c'est aussi cette impression d'avoir été, durant ces 2 mois de marche au Japon, à l'image d'une feuille de thé qui aurait vraiment infusé, jour après jour, pas après pas, sur cette île bordée d'eau, et de revenir ensuite, de remonter à la surface à la fin, et de revenir dans mon quotidien pour goûter mon quotidien avec de nouvelles saveurs, de nouveaux arômes, un petit peu à l'image de ce thé qui exhale après de nouvelles saveurs. Et donc cette dimension initiatique, pour moi, elle a été extrêmement présente dans cette marche. Et c'est vrai que si tous mes voyages m'ont marqué de se mettre à leur manière, et tous laissent une petite graine qui continue de germer après, c'est vrai que cette aventure à Shikoku restera vraiment à part pour moi, bien au-delà des beaux paysages ou des rencontres extraordinaires, de la découverte culturelle, de tout ça. Il y a vraiment cette dimension presque fondatrice. Voilà. Pour moi, ça a été presque une... j'ai vraiment l'impression d'une renaissance qui s'est effectuée à l'issue de ce pèlerinage et qui me ramène à mon quotidien, ici et maintenant. Avec un nouveau regard, et voilà, donc c'est cette...
Oui, d'ailleurs c'est ce qui fait la qualité de ce livre, c'est que ça n'est pas un récit de voyage comme on peut en lire beaucoup, tous très intéressants bien sûr, mais on sent bien et on vous suit pas à pas, on sent bien qu'il se passe quelque chose, il y a une profonde mutation qui se met en route. Et d'ailleurs un des premiers éléments, et qui est amusant parce qu'il est presque, il intervient presque malgré vous, c'est que vous parlez au tout début, vous dites bon, alors vous avez été accueilli dans un monastère, etc., et vous mettez à vivre comme eux, et puis vous mettez à réciter des mantras comme ils le font, et vous décrivez la situation en disant mais en faisant cet exercice de manière mimétique, en faisant, tout à coup, il se passe quelque chose presque malgré moi.
Oui, exactement. C'était comme si, là encore, je crois, cette histoire, comme j'en parlais tout à l'heure, cette histoire de mental qui est mis en déroute, c'est comme si, d'un coup, c'était les choses se posaient. Surtout après la frénésie du départ, beaucoup de choses à faire, etc. Les listes à la Prévert, comme on peut connaître avant de partir pour un long moment. Et c'est comme si, du coup, ne serait-ce que la récitation de ces mantras, par l'impact de ces vibrations, par toute cette atmosphère qui nous porte, comme si tout cela nous enveloppait et effectivement avait un effet extrêmement apaisant. Et recentrant, un petit peu réalignant, je sais pas si ça, hein, comme si, nous ramener à notre centre, même sans y mettre, justement, du sens par rapport au mot.
Sans intention, mais pourtant, voilà. On sent bien que ça vous... Ça commence là, il y a des choses qui commencent à se déplacer, imperceptiblement, et puis on va aller vers... Et alors, il y a aussi des notations que j'ai trouvées très intéressantes, peut-être par goût personnel, mais il y a beaucoup de notations sur la cuisine, sur ce que vous mangez, sur les saveurs. C'est très savoureux, précisément,
oui.
De le lire. On a presque l'eau qui vient à la bouche, quoi. On se dit, oulala. À la fois, c'était très dur, parce que, quand même, les kilomètres que vous avez fait, mais en même temps, il y avait quelques satisfactions, quand même.
Ah oui, mais ça a été un chemin, en même temps, extrêmement jubilatoire aussi. Et c'est vrai que tout cet aspect culinaire et cette découverte vraiment du raffinement culinaire à la japonaise en fait pleinement partie. Cette découverte de l'art culinaire, c'était un véritable émerveillement. Et le soin apporté à chaque chose, aussi bien aux couleurs des aliments, aux différentes cuissons, à l'agencement des petits plats les uns par rapport aux autres. Et là aussi, cette espèce de remobilisation de tous les sens. C'était pas seulement effectivement l'aspect gustatif qui était activé, ça c'est déjà un tableau que l'on qui invite à un émerveillement visuel en premier lieu avant que le goût s'en mêle, les senteurs pareil, et puis cette découverte aussi, faire cette expérience très souvent de ne pas savoir ce que j'étais en train de manger et juste de passer par cette découverte, là encore une fois avec cette fraîcheur de de la pleine découverte sans passer par le filtre du déjà connu. Bah oui, je sais que c'est ça et que ça a tel goût. Là, c'est non, vraiment, voilà, passer par l'expérience des sens premières et de cette.
Une sorte de dégustation à l'aveugle.
Exactement.
Qui fait naître un certain nombre de sensations.
Tout à fait.
Alors, donc, il y a cet aspect. Donc de changement qui peu à peu s'instaure dès quelquefois dans la difficulté ou en tout cas dans la fatigue, parce que le corps est très éprouvé et on a l'impression par moments que ce corps éprouvé, il y a une forme là aussi de presque de jubilation dans certaines épreuves, même dans certains moments de fatigue extrême que vous décrivez comme quelque chose de comme si vous aviez atteint un moment même très fatigué, un moment de conscience particulière.
Alors c'est vrai que voilà, le corps est mis à l'épreuve, parce que c'est sûr que Shikoku, c'est une île qui a des dénivelés assez conséquents. En plus, moi, j'ai réalisé ce pèlerinage en plein été, donc il faut savoir qu'il fait très chaud.
Très important,
et
oui.
Puis la chaleur, et puis c'est surtout une chaleur moite et humide. C'est un été particulièrement chaud, l'été 2013 au Japon. Et donc oui, le corps voilà, est éprouvé. Mais effectivement, il y a une espèce de jubilation dans le dépassement aussi, dans le fait d'aller aller repousser aussi ses limites, d'aller voir jusqu'où on peut aller, et puis en même temps de se dire ben voilà, on l'a fait, on y est arrivé. Puis de toute manière, parfois on a juste pas le choix parce qu'on est en pleine montée, même si on n'en peut plus, on ne peut pas s'arrêter là quoi qu'il en soit. Donc certaines étapes vraiment difficiles. Et en même temps, il y a cette espèce de jubilation, cette ivresse même de l'élévation. De l'élévation, donc quand on monte en altitude, ou presque parfois, il y a une espèce de. Moi, j'associe un peu avec cette ivresse de l'élévation dans nos. Un peu d'un point de vue spirituel, on se dit, bah voilà, chercher à s'élever, à aller, voilà. Mais en même temps, en gardant les pieds sur terre, hein, et la marche nous le rappelle bien. Mais de toute manière, quoi qu'il en soit, la jubilation est pour moi aussi pleinement présente dans le fait de retrouver cette dynamique du corps en marche et voilà, du corps qui est en mouvement et du corps qui nous permet de. Cette sagesse du corps. Voilà, je pense que le corps, de toute manière, a beaucoup à nous apprendre et à nous réapprendre et il m'a du coup beaucoup porté durant cette marche aussi.
Alors pour finir sur une note plutôt rigolote, c'est que lorsque vous partez de chez vous, vous perdez vos clés.
Oui. Alors ça, c'était quand même un bel acte manqué,
ah
hein,
oui,
pour quelqu'un
ah oui.
qui était à l'étroit entre
donc
ces quatre murs.
Si on traduit l'acte manqué, c'était pour plus savoir où vous habitiez.
En gros, c'était ça. C'était un largage des amarres, voilà, en bonne et due forme, hein, vraiment, on dit comment, clé des champs aussi, mm-hmm. c'est ça, je crois. Et du coup, donc cette clé est curieusement est réapparue un mois et demi après mon départ à Shikoku, le jour même où je posais mon pied dans la province du Nirvana, c'est-à-dire que le voilà. Donc j'ai pas pu y voir simplement une simple coïncidence comme ça. Moi, je me suis dit, c'est vraiment comme si le chemin m'enseignait que le nirvana, disons le paradis, hein. Je le cherchais partout, dans le plus éloigné possible de mon quotidien, dans un ailleurs, dans un lointain, et finalement là le chemin est en train de m'enseigner que ben non, le paradis il était avant tout à la portée de la clé de mon quotidien, de mon ordinaire, et simplement c'était à moi de porter un regard dessus autre et de déployer un nouvel art de vivre par rapport à ce quotidien, mais que le paradis il était déjà là à portée de la clé. Donc ça a été un enseignement ô combien riche pour moi. Et effectivement, cet instant ô combien solennel et sacré du retour, quand j'ai mis cette fameuse clé quand même du paradis dans ma serrure pour ouvrir la porte de chez moi, ça a été un instant effectivement très solennel. Ouais, vraiment le mot solennel, cette solennité du retour et de me dire « mais oui, voilà ». Et du coup, bah, le quotidien fort de ça ne peut plus être fade, monotone ou... c'était effectivement un sacré enseignement.
Est-ce que vous avez fait un autre voyage depuis ?
Alors depuis, oui, bah, je suis repartie l'été dernier. J'ai marché 1800 km. Je suis partie de Vézelay. J'ai été jusqu'à Assise, en Italie, donc. Et j'ai continué après à Rome. Et donc, ça a été une autre aventure qui, là, je crois, m'a... incité à sortir des balises, justement, à quitter les chemins balisés pour être au plus près de ce qui sonnait juste pour moi.
Vous aussi, vous allez écrire sur vos chemins noirs.
Pourquoi pas, à suivre.
Voilà, c'était donc Marie-Edith Laval qui nous parlait de ce livre comme une feuille de thé à Shikoku, livre qui a été donc publié aux éditions du Passeur et qui vient d'être réédité par le Livre de Poche, donc à un tarif très accessible. Ainsi s'achève ce Gulliver, nouvelle formule, à la semaine prochaine.
Gulliver, l'hebdomadaire des livres, des images et des idées. À la rencontre d'un écrivain, d'un photographe ou d'un plasticien pour mieux décrypter le monde.
Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant.
Une production Divergence FM proposée par Alain Vaquier et réalisée par Bruno Bertrand.